106.9, Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Patrick Lagacé.
Je comprends que ça prenne une médication, mais la médication ne guérit pas tout. Là. Fait que, c'est, mettons qu'elle, en laissant cette lettre-là, pour moi, c'est vraiment essayer qu'il y ait des centres d'aide plus. Parce que je vous le dis, là, je ne peux pas vous dire combien de centres qu'on a fait, qu'on a essayé d'appeler, que là, on se faisait raccrocher, qu'il n'y avait pas personne pour l'aider. Fait qu'elle, ses issues, elle n'avait plus.
Alors voilà, donc la mère d'Émilie Hull en entrevue hier dans Midi Plus avec Robert Pilote. Et j'aime la façon dont il débute cette chronique. Ça fait des années qu'on en parle de santé mentale. Le problème, c'est qu'on en parle souvent lorsqu'il arrive un drame. Oui, on en parle lors de la journée Belle cause pour la cause, mais ça, comme il arrive chez nous, là, c'est encore la même chose ce matin. Salut Patrick.
Salut Catherine.
Puis Patrick, t'en as parlé souvent toi-même, là, tu nous as raconté des histoires, tu sais, fin 2018, puis t'en parles là-dedans, j'en ai parlé deux fois. Puis je le disais tout à l'heure, on dirait que le terme problème de santé mentale, on dirait que j'ai comme un malaise avec ce terme-là. Es-tu d'accord? Je suis pas sûr qu'on utilise le bon terme.
Bien, en fait, c'est que ça dit tout puis ça dit rien. Parce
c'est
que, tu sais, les problèmes de santé mentale, ça peut être de l'anxiété.
Ouais.
Ça peut être un trouble de l'adaptation, puis ça peut être de la bipolarité, puis ça peut être de la schizophrénie. T'sais. Fait que c'est très, très large. Mais ce qui est très, très sûr, c'est que pour beaucoup de gens, quand tu lèves la main, puis tu veux de l'aide, ouais, c'est difficile d'en avoir. On va te donner une pilule. Ça, s'il y a une pilule, tu peux être sûr qu'on va te la donner bien, bien vite. Mais si tu as besoin d'une autre forme de soins, si tu as besoin d'intervention psychiatrique, psychologique, thérapie, name it, ça va être bien plus long. Puis ça, c'est un problème parce que des fois, la petite pilule, elle règle pas tout. Elle peut régler des affaires, mais elle règle pas tout le temps.
Oui. Puis t'en parles dans ta chronique de ce matin, les erreurs aussi de diagnostic. Tu fais référence, tu racontes l'histoire de la petite Laurie qui était agitée en classe, qui n'était pas gérable. Là, on conclut, on lui donne la fameuse étiquette du TDAH. Finalement, c'était pas ça pantoute. La petite fille a un trouble du spectre de l'autisme.
Oui, bien, écoute, diagnostiquer des troubles neurologiques, diagnostiquer des maladies mentales, ce qui n'est pas forcément la même affaire, OK?
Faut non, t'as raison, c'est
là.
Vrai.
C'est difficile. Ça prend des tests. Puis des fois, même avec les meilleurs psychiatres, je te parle pas de troubles du déficit de l'attention, là. Même avec les meilleurs psychiatres, on a un problème à diagnostiquer. Mais là, dans le cas qui nous occupe, là, le cas de la petite Laurie, moi, je faisais écho au dossier de Caroline Touzin et de Katia Gagnon en fin de semaine. C'est une petite fille qui était agitée en classe et une psychologue conclut, c'est les termes de l'article, conclut à un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Écoute, il y a des neuropsychologues qui font des tests très poussés, qui prennent plusieurs séances, qui touchent le neurologique, mais qui touchent le psychologique, donc la personne dans son milieu. Tu comprends?
Oui.
C'est des heures et des heures et des tests et des tests. Moi, quand j'entends que des enfants se font prescrire du Ritalin ou une autre forme de psychostimulant après une séance chez le médecin ou chez le psychologue, je me dis, aïe aïe, c'est pas comme ça qu'on devrait dépister le TDAH. Puis dans ce cas-là, la petite fille, elle avait pas un TDAH, elle avait un trouble du spectre de l'autisme.
Oui.
Mais si un neuropsychologue était passé sur son cas, bien c'est sûr qu'il aurait dit, ce n'est pas un TDA. Je peux pas vous aider, c'est pas... Dans ce que je vois, dans mes tests, dans mes paramètres, elle ne fit nulle part. Bien, moi, je reviens à ça. Est-ce qu'on peut avoir les bons diagnostics? Des fois, là, c'est sûr qu'on va se tromper, Catherine.
Ouais,
parce que c'est dur.
Ouais.
Mais on peut savoir les bons spécialistes qui posent les bons diagnostics.
Oui. Et on peut-tu... Je vais faire un lien avec Émilie Hull. Puis hier, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. On peut-tu écouter ce que les gens ont à nous dire? Tu sais, Émilie, dans sa lettre, elle dit « Au Québec, il y a un gros taux de suicide et je comprends pourquoi. Je me suis présentée à l'urgence dans le but de me faire hospitaliser car je n'en pouvais plus de vivre comme ça. Je voulais être traitée, je voulais être prise en charge. Pour le psychiatre, je ne nécessitais pas d'hospitalisation.
Mm-hmm. »
Patrick, la jeune fille le dit elle-même. Elle a fait des tentatives de suicide. Elle a des idées suicidaires. Si ça, ça ne mérite pas une hospitalisation, bordel, qu'est-ce qui mérite une hospitalisation?
Écoute, quand j'ai fait l'automne passé, là, je pense que c'était au mois de novembre, c'est le cas de Jean-François. Jean-François, il a déjà vécu un burn-out. Là, il touche le fond du baril, appelle sa sœur. Sa sœur l'amène chez le médecin. La médecin de famille l'écoute, l'envoie d'urgence à la Cité de la Santé en psychiatrie. Fait que le gars est vu assez rapidement, mais de la même façon ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec Émilie.
Ouais.
On juge que non, on ne va pas l'hospitaliser. On lui donne des brochures puis une prescription. Tu vois, est-ce que, après ça, là, est-ce que dans certains cas, Catherine, là, de gens qui sont désespérés, qui ont mal à l'âme, est-ce que, qu'importe ce qu'on va faire, ces gens-là, on va les échapper? Moi, je pense que ça se peut. Okay? Il y en a un pourcentage là, qu'on ne pourra pas aider. C'est trop aigu. Okay? Mm. Mais on a quand même une obligation de moyens. Et quand tu sais à quel point on manque de lits en psychiatrie, à quel point on manque de ressources, j'ai bien, bien de la misère à imaginer qu'un psychiatre qui reçoit une personne comme ça, s'il n'y en a pas de lits, là, il ne peut pas en inventer. Puis moi, je pense que dans certains cas, ça risque de teinter la décision. Puis je sais qu'il y a des psychiatres qui n'aiment pas ça quand je dis ça, mais si tu n'en as pas de lit, là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te dire, bien, écoute, on va peut-être jouer statistique, puis peut-être que cette personne-là ne va pas s'enlever la vie. Mais dans certains cas, les personnes s'enlèvent la vie, Catherine, puis ce qui est tragique, c'est comment tu veux répertorier ça? Comment tu veux tenir des statistiques là-dessus? C'est extrêmement difficile.
Ouais, c'est très difficile. J'aime beaucoup le bout où tu dis ce matin, j'ai voulu hurler quand j'ai lu que les 22 CIUS à travers le Québec ne savent à peu près pas la durée d'attente moyenne pour un jeune qui a besoin des services d'un psychiatre ou d'un psychologue. Mm-hmm. Là, on est en train de faire les vérifications chez nous. Dans certaines régions, c'est 169 jours, dans d'autres, 153. Tu sais, Patrick, quand tu vas pas bien, puis tu as des idées noires, puis tu as le mal de vivre, là, 169 jours, c'est long.
Bien, 169 jours, Catherine, là, c'est... Ça touche, cette statistique-là, mes collègues journalistes ont pu l'avoir parce qu'il y a une poignée de CIS puis de CIUS, là, les patentes régionales qui s'occupent des soins de santé, de services sociaux, qui tiennent des statistiques. Il y en a d'autres qui n'en tiennent pas. Fait que, comment tu veux évaluer quelque chose que tu n'es pas capable de nommer? Tu comprends?
Ouais.
Il y a ça aussi.
Ouais.
Et l'autre problème, qui est un autre problème systémique là, aussi avec l'accès aux données dans le système, les filles ont dû faire des demandes d'accès à l'information. Comment ça fait que tu es obligé de faire des demandes d'accès à l'information pour une information aussi simple?
Ouais,
ben, le système se protège. Le système, il se dit, écoute, est-ce que les journalistes vont y aller chercher à faire la demande d'accès? Ça va prendre combien de temps? Peut-être qu'ils vont se tanner. Peut-être qu'ils ne vont pas l'écrire finalement si on ne leur donne pas les infos.
Ouais. Hier, puis je veux bien le dire ce matin, okay, parce que mon but, ce n'est pas de blâmer personne ou de cibler des gens et dire « Ah, c'est de leur faute », mais sais-tu ce qui m'a saisi dans ce qu'elle racontait? Puis j'en ai parlé avec Robert puis le docteur Mailloux. Quand elle dit « J'ai eu un mal de vivre depuis que j'ai 12 ans et maintenant j'en ai 23. J'ai 23 ans, je suis déjà tannée de la vie, j'ai hâte que mon heure arrive. Ça blesse mes proches et je les comprends, mais me voir malheureux, je ne crois pas que c'est mieux. » Tu sais, Patrick, puis je veux pas tomber dans la psychologie de cuisine parce que c'est pas ça que je fais dans la vie, là, mais on l'a-tu écouté, cette jeune fille-là? Tu sais, à 12 ans, Patrick, quand t'as un mal de vivre, la souffrance qu'elle avait, elle part de quelque part. Ça, c'est peut-être une combinaison de facteurs, mais à 12 ans, le mal de vivre, il s'est passé quoi avant ou il s'est passé quoi à 11 ans? Tu comprends? Je veux pas dire que c'est juste un point, mais on l'a-tu bien écouté?
Regarde, on n'est pas dans la famille.
Non, je le sais.
On n'est pas dans son milieu. Moi, je reviens à ça, OK? Il est possible qu'il y a des gens qu'on va échapper, okay, qui ont trop mal. Cependant, on a une obligation de résultat. Et quand tu lis la lettre d'Émilie Hull, ce que tu vois, c'est son côté de l'histoire.
Ouais.
Sa mère est venue dire la même chose, si j'ai bien compris.
Ouais, ouais.
Quand elle levait la main, ça ne se précipitait pas. Et ça recoupe d'autres témoignages. Et quand tu recoupes tous les témoignages, ça fait beaucoup de monde qui commence à dire « Quand je lève la main, j'en ai pas eu de service. » Tu comprends?
Ouais.
Il est possible qu'à la fin, là, on le sait pas, mais il est possible que si Émilie avait eu tous les services, peut-être que l'issue tragique de sa vie aurait été la même. Mais comme société, on a quand même une obligation de résultat. Ouais. Moi, regarde, Catherine, c'est pas mêlant. Je fais un certain lien avec le décrochage au Québec. Okay?
Okay.
Le décrochage au Québec, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie qui est invisible. Tu comprends? Tu as des kids qui décrochent. Comment tu le sais? Il n'y a pas de photo, tu ne le vois pas. S'il y a un bloc de béton qui se détache d'un viaduc qui est mal entretenu, puis que tu as une photo de quelqu'un, puis un topo sur quelqu'un qui a reçu le morceau de béton dans son pare-brise, puis tu as une photo du pare-brise, puis tu as la personne qui a un bandage dans la face, on comprend tous.
C'est
tout ça. Le monde peut comprendre. Il y a une photo. Et dans le cas du décrochage, dans le cas de l'accès aux services de santé mentale, tu n'as pas cette photo-là. Tu as toujours quelque chose après, puis évidemment, là, tout le monde, toute la classe politique se dit préoccupée puis bouleversée, etc. Christy, ça fait des années et des années qu'on en parle et qu'on en parle et qu'on en parle. Et belle cause pour la cause. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Sentez-vous pas diminué. Vous n'êtes pas, pas faible si vous dites que vous avez des problèmes de santé mentale. Quand les gens lèvent la main, il faut qu'il y ait des services. Parce que s'il n'y en a pas là, dans certains cas, ben, ils vont se tirer en bas du pont.
Oui. OK. Merci, Patrick. On s'en reparle demain. Merci beaucoup, Patrick Lagacé, du lundi au jeudi, 7h15.